Des pionniers du cinéma, on peut dire que c'était le dernier. Il a terminé la période, ce qu'on appelait la période primitive du cinéma, avec Les Vampires en 1915. Il a commencé à faire du cinéma en 1905, donc à une époque où le cinéma était encore à inventer, enfin le spectacle était encore à inventer, en dépit de Méliès, qui avait fait déjà un grand pas en avant dans ce sens. Et on peut dire que Feuillade est un des créateurs du cinéma, de ce qu'on a appelé au cinéma le réalisme fantastique.
Là, c'est justifié.
Là, c'est justifié. Voilà. Ça consiste, en grosso modo, à mettre des personnages invraisemblables dans des décors réels. Hein, et de tourner dans la rue. C'est vrai que si vous voyez arriver un bonhomme dans la rue et qui s'appelle Fantomas, et vous savez que c'est Fantomas, vous êtes forcé de croire à Fantomas, puisque c'est dans votre rue que vous voyez tous les jours. Et ça, ça revient d'une grande tradition du roman populaire, du Mystère de Paris, etc.
Et vous avez d'ailleurs, avec Franju, interviewé ou rencontré le père de Fantomas, je crois.
Un des pères, Marcel Alain. On a passé 8 jours chez lui à le filmer, à le faire discuter toute la journée. C'était un vieux bonhomme formidable, que je connaissais depuis de longues dates. Et alors, il nous a raconté des histoires. Il était hableur, comme pas possible, c'était vraiment... Il était l'homme qu'il fallait pour écrire Fantomas. Et je ne sais pas ce qu'il pouvait... Un jour, j'étais chez lui, quelques temps avant sa mort, il est mort à 84 ans, et je vois qu'il a une boussole sur le pare-brise de sa voiture. C'était un grand chauffeur. Et alors, je lui dis, mais Marcel Alain, qu'est-ce que vous faites avec cette boussole ? Oh, dit, on peut se perdre. Je lui dis, écoutez, quand même, en Seine-et-Oise. Oh, il me dit, oui, en Seine-et-Oise, mais dans le Sahara, par exemple, vous n'avez pas de boussole. Et c'était tout le temps ça. Et alors, ils se sont entendus merveilleusement avec Georges, et il y a eu un dialogue. On a malheureusement monté qu'une 20 minutes, je crois, mais il y a des heures d'émission, dans, je sais pas, au moins 2-3 heures qu'on a faites. Je ne sais pas où elles sont, mais Marcel Alain racontait, par exemple, que dans le fiacre de nuit, à un moment, on voit le dépeceur fou qui travaille à la faculté de médecine. Et alors, Fantomas lui envoie ses victimes dans le fiacre de nuit, c'est-à-dire que c'est un fiacre qui... Fantomas est à l'intérieur, il conduit le fiacre, et le mort est attaché sur le siège du cocher. Et la nuit, on voit passer un fiacre fantôme avec un cocher livide et inquiétant qui ne s'arrête jamais quand on l'appelle. Et ils vont le... C'est Fantomas qui va livrer des cadavres. Alors, il raconte... Ça m'a été inspiré par un homme que j'ai bien connu, qui s'appelait Dominique, qui était préparateur à la faculté de médecine. Et alors, d'abord, il avait une petite morte. Il gardait une petite morte. C'était de ce ton-là tout le temps, les récits de Marcel Alain. Il disait, il mettait ses cadavres dans une grande marmite, il faisait chauffer, et puis il prenait un bâton, et il touillait. C'était un homme qui vivait dans l'horreur, comme ça, de la façon la plus charmante, d'ailleurs. C'était le type le plus gentil qui soit. J'ai connu Guirque Boileau et Narcejac qui étaient aussi dans ce genre, qui réjouissaient aussi d'ailleurs beaucoup Franju.
Bien sûr, qui ont écrit d'ailleurs Les yeux sans visage.
Les yeux sans visage, oui.
Mais
oui.
Sur Judex, vous m'avez dit une autre fois, j'ai déjà eu l'occasion de vous voir, et comme qu'en fin de compte, le personnage de Judex irritait beaucoup Franju, ça n'intéressait pas du tout.
Ça l'emmerdait. Il aimait Fantomas parce que c'était le génie du crime. Hein. Et Judex, ce type qui fait le bien, qui le sauveur comme ça, ça l'embêtait. Alors il le mettait souvent de dos.
Oui, en fait, il faut bien dire une chose, c'est que du point de vue de l'écriture, un justicier, c'est absolument impossible à manipuler. Parce qu'il faut que le mal, pour que le justicier intervienne, il faut que le mal soit fait. Donc le justicier a toujours l'air d'un idiot. On peut pas faire. Non, mais c'est vrai, on peut pas
d'ailleurs,
faire.
D'ailleurs, je trouve que Judex a l'air pas mal d'un idiot. Il est un peu filmé comme ça.
Justement, mais je crois que c'est ça qui fait le charme du film. C'est que finalement, on a surtout axé le film, forcément, sur les méchants. Judex est un personnage complètement thaumaturgique, complètement. D'ailleurs, cette histoire des oiseaux et du mariage au début, des fiançailles au début, vient du fait que Channing Pollock, qu'on avait choisi pour Judex, qui était un type extrêmement beau, qui avait fait quelques films en Italie comme ça, avec des sous-productions, il avait même fait un fils du chèque, enfin, on avait cherché à en faire un nouveau Valentino, mais vraiment de bas étage, et Channing Pollock avait un grand numéro international,
très grand magicien.
C'était un très grand magicien, il faisait un numéro de Colombe, et ce type avait une élégance extraordinaire dans ses gestes, dans sa façon de bouger, et puis il est beau physiquement, même s'il est un physique un peu mièvre, comme tous les Judex d'ailleurs, parce que Cresté aussi avait un peu ce physique. Le premier
Judex de fin de feuillade.
Oui, de feuillade. Et celui de mon père qui s'appelait, je ne sais plus comment, et aussi était aussi un joli garçon, comme ça, visage très régulier. Ferté. Et on a décidé d'utiliser ce côté magique. C'est-à-dire que quand Judex arrive dans ce bal, très étrange, parce que tous les gens sont masqués avec des têtes d'oiseaux, ça c'est venu parce que j'avais acheté par hasard sur les quins d'album des dessins de Granville. Et donc il y a toujours des animaux comme ça, montrés sous forme d'humains. Et donc on s'est dit, si brusquement ce personnage est magique, il n'a plus besoin de se justifier. Donc tout le travail de justicier était tout fait. Ça nous évitait d'avoir à montrer comment le justicier arrivait, C'est ce que d'ailleurs c'est ce que René appelle à propos d'Harry Dickson. René parle des policiers thaumaturges. Harry Dickson arrive, il est là, il a tout compris. Sherlock Holmes aussi, d'ailleurs, bien on essaie de nous faire croire qu'il raisonne. Ce sont des gens qui devinent, ce sont des devins. Et Judex, c'est aussi un justicier comme ça, complètement magique.
Tout à fait.
Une fois cet aspect magique admis par le spectateur, on pouvait après ça se lancer dans n'importe quoi.
Il y a quelque chose qui est très étonnant chez Franjus. Moi, je pense que c'est un grand cinéaste de la femme. On pourra parler de Thérèse de Guiroux, qui a d'abord un bouquin remarquable de Mauriac et sur la femme rebelle et sur... On reviendra peut-être dessus, mais je trouve que dans Judex, vous l'intéressiez moins apparemment que Francine Berger, qui joue donc cette femme qui utilise les cornettes. Enfin, il est complètement fasciné par ce rôle de Francine Berger.
Oh, c'est un personnage. Donc,
voilà, c'est le personnage. Oui, c'est ça.
Drôle,
les religieuses qui ont... Alors c'est oui, ça, est-ce que vous pourriez m'en parler? Parce qu'en fait, c'est complètement... Et ça rejoint un petit peu peut-être l'univers de Feuillade, non?
C'est
Bonnes Sœurs.
Le personnage des Bonnes Sœurs, c'est dans un film de Feuillade qui s'appelle Timine, où ce sont les bandits qui arrivent déguisés en Bonnes Sœurs. Et là, il y a une photo qui a été choquante à l'époque, où on voit un type grimaçant avec une cornette de Bonnes Sœurs et un gros revolver au premier plan, comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des Bonnes Sœurs dans le Judex.
Il y a une scène qui a failli être censurée d'ailleurs, parce qu'il y a Francine Berger, donc qui est en cornette d'abord, qui me donne d'abord un bon coup de seringue pour m'endormir. Ensuite, elle me prend et elle m'amène dans un moulin. Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle est poursuivie et elle cherche à s'échapper. Donc, il y a le striptease de la bonne sœur qui enlève sa cornette, qui commence à enlever sa robe pour finalement plonger dans l'eau et s'enfuir. Ça a été une scène à un moment, est-ce que ça va être censuré, est-ce que ça ne va pas être censuré?
Oui, c'est-à-dire que la censure officielle s'en est jamais mêlée, mais c'est l'Église qui nous a fait les pires ennuis, groupe de pression.
Vous n'avez pas encore vu La Faute de l'abbé Moulin, d'ailleurs?
Non,
pourquoi? Mais vous l'avez vu au Table des Invalides,
Et d'ailleurs, ça c'est toutes les thématiques de Franjus, enfin il n'aimait pas l'armée, il n'aimait pas l'Église, il n'aimait pas la famille, Thérèse de Guiroux, c'est ça.
C'est une meurtrière, Thérèse de Guiroux. C'est pour ça qu'elle l'aimait beaucoup.
Oui. C'est une meurtrière, et c'est une meurtrière qu'on comprend. Je crois que la grande différence avec le livre de Mauriac, donc, que j'ai relu, c'est effectivement, c'est pas Dieu. Enfin, c'est-à-dire que ce qui arrête, notamment au moment où Thérèse veut se suicider, dans le livre de Mauriac, c'est « il » avec un « i » majuscule, c'est-à-dire « Dieu ». Et je crois que c'est la plus grande ellipse qu'est faite Franjus, c'est-à-dire le roman de Mauriac, c'est quand même une recherche spirituelle, c'est une quête spirituelle. Quelque part, cette femme, c'est Dieu qu'elle trouvera au bout. Et dans le film de Franjus, il n'y a rien de tout ça, je veux dire, je crois que... non.
Edith peut vous le dire mieux que moi, mais je crois qu'il... Enfin, moi, il m'a dit plusieurs fois, Mauriac ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bouquin de Mauriac, c'est le personnage.
Et puis, ce qui l'intéressait chez Mauriac, et c'est là où ça a été quelquefois un peu limite entre les deux, c'est qu'il voulait arriver à ressortir tout ce qu'il y a de fondamental, profane et en porte-à-faux chez Mauriac.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des choses qui le dépassent un petit peu.
Oui,
enfin,
tout à fait.
D'ailleurs,
il
avait été ressortir un poème de jeunesse de Mauriac qui était tout à fait équivoque.
Tout à fait.
Et dont Mauriac n'a jamais voulu qu'il soit introduit dans le film.
Oui. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est dans les premières pages de Thérèse en le relisant, quoi. C'est effectivement cette homosexualité sous-jacente de l'œuvre de Mauriac, et qui, à mon avis, la repoussait. Bon, parce que c'était quelque chose que son éducation religieuse ne permettait pas.
Effectivement, le poème en question était équivoque, disons.
Voilà, bien sûr. Et alors, sur le personnage d'Anne de la Trave, oui, on en a déjà parlé, je crois, tout à l'heure, non ? On en a pas
non,
parlé.
Non, non.
Alors, ce qui m'a frappé, c'est que dans le livre de Mauriac, le personnage d'Anne de la Trave, donc, que vous jouez dans le film de Franju, est totalement différent. Il me semble que chez Franju, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vivant, radieux, naïf aussi. Et à la fin du film, il y a comme une espèce d'extinction du personnage. Au départ, c'est de la lumière, et à la fin, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Et dans le livre de Mauriac, elle est moins sympathique, et elle est récupérée, et même elle est passée de l'autre côté du camp, c'est-à-dire qu'elle est du côté de la famille et de ses valeurs. Et c'est moins évident, le personnage dans le film de Franju est complètement séquestré par la famille, c'est-à-dire que c'est une victime. Beaucoup plus, je trouve que dans le film de Franju, le bouquin de Mauriac, hein, je l'adore, c'est vraiment un grand truc. Mais Franju, vraiment, a fait, à mon avis, là, un grand film sur l'enfermement de la famille bourgeoise, quoi.
Oui, et puis on a l'impression, je pense, dans le film, que le grand moment de vie d'Anne de la Trave, c'était sa relation avec Thérèse,
avec quoi. Thérèse.
Ça a été le vrai moment de vraie vie, quoi.
Absolument.
Et que tout le reste, c'est devenu une...
C'est l'horreur.
C'est dans le monde de la convention.
Absolument.
Et du rien, quoi.
Ouais.
Du rien.
Ouais.
Effectivement.
Oui. C'est très, très bouleversant, ça.
On va d'ailleurs, du fait que le film, il n'y a qu'un seul film de Thérèse Desquiraux.
Oui, oui, oui.
Donc, à la fin du film, Thérèse est libérée.
Oui, oui.
Ce qui n'est pas du tout le cas chez Mauriac, puisque...
Elle va dans Paris.
Oui.
Si, mais... quand même.
Oui, mais on sait...
Probablement
on
pour retrouver Azevedo.
Nous, lecteurs, nous savons qu'après
oui,
ça...
Oui, il y a la fin. Thérèse à Paris, etc. Donc, c'est la fin.
Il y a encore un où elle va chez le psy, chez le médecin, chez le
psychiatre. C'est la fin du jour, non ? Ah non, c'est pas la fin du jour, c'est la fin de la nuit.
Oui.
C'est la fin de la nuit.
Donc, le personnage de Thérèse, celle que l'a construit Mauriac, n'est pas du tout libéré. Tandis que celui de...
Ah oui, non, mais Franju, à mon avis, est un cinéaste de la liberté.
Elle accède à la liberté à travers le crime, ce qui tout de même est très amoral.
Bien sûr.
Oui, oui. Mais Franju, il est très amoral.
Oui, oui, bien sûr.
Oui.
C'est pour ça qu'on l'aimait bien.
Et alors, ce film étonnant de Thomas l'Imposteur, sur lequel moi je voudrais revenir, parce que ça m'a beaucoup étonnée. Et alors là aussi, on voit le travail sur l'actrice, parce que Emmanuel Riva... est complètement métamorphosée entre Thomas l'Imposteur et Thérèse Desquiroux. Mmh. C'est-à-dire que là, il y a un travail sur l'actrice qui est remarquable. On ne la reconnaît même pas physiquement. On ne la reconnaît même pas. Et alors, Thomas l'Imposteur, c'est un film qui est très surprenant. Et par rapport à la théorie de Gérard Leblanc sur l'inconfort du regard du spectateur, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, quelle position peut avoir le spectateur devant un film comme ça ? Parce que c'est ça le problème.
Il ne peut pas être jamais pris par le cinéma en tant qu'illusion réaliste. Il ne sait pas où il est.
Où il est, ouais.
Et c'est le sujet du film.
Absolument, absolument. C'est le sujet de la non-identité de Guillaume.
Ouais. Quelqu'un qui joue un rôle finit par le vivre à son corps défendant, mais sans le savoir, finalement.
Absolument.
Et c'était complètement un sujet pour Franju. Un aspect que je voudrais souligner aussi, peut-être, c'est par rapport... Je crois que Franju a innové aussi à son époque. Beaucoup de critiques lui ont reproché, sujet de Thomas l'Imposteur, Thérèse, lui ont reproché de ne pas avoir fait de scénarisation véritable. C'est-à-dire, pas de véritable adaptation. D'ailleurs, beaucoup l'ont critiqué parce que... Enfin, quelques-uns l'ont critiqué parce que c'était un lecteur. C'est quelqu'un qui rencontrait ses textes, en tout cas, parce qu'il y a deux types de textes qu'il a adaptés. Hein. Les romans d'aventure, c'est évidemment pas Cocteau, etc. Les textes, il les visualisait, c'est-à-dire il les travaillait à partir des images que l'écriture littéraire elle-même produisait.
Mmh.
Et c'est ça qui est très fort. Alors que à son époque, tout le monde en passait par des équivalences, par des métaphorisations, par des transformations scénaristique, lui, il travaillait au plus près des textes. Quand il entrait en relation avec un texte, il travaillait au plus près du texte. Et c'est riche d'avenir aussi, parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, par exemple, de façon de plus en plus urgente, se raconte du poétique et du cinématographique, bien, c'est ça. Tant qu'on voudra scénariser un texte de poésie, on ne pourra jamais filmer la poésie.
Bien sûr.
Alors c'est juste une petite.
Et je trouve que sur l'écriture, incident. Malgré tout, même si Frangis disait que Mauriac l'intéressait pas, c'est étonnamment.
L'intéressait pas pas en tant que scénariste, mais en tant qu'écriture, certainement.
Il y a un travail sur l'écriture de.
Il prend des fragments de texte qu'il trouve beau et travaillable.
Voilà. Qui m'a frappé en lisant le livre, j'ai dit, mais bon,
disons, pour être plus clair, que ce qui ne l'intéressait pas, c'était de refaire, d'illustrer Mauriac.
Il ne l'a pas illustré, il l'a métamorphosé.
Il a pris Thérèse telle qu'il la voyait.
Voilà, il l'a métamorphosé, il l'a fait, sa Thérèse à lui. Mais sur l'écriture, je trouve que c'est un grand film. C'est un grand film sur l'écriture de Mauriac, sur l'écriture
de Mauriac. Ah oui, mais il y a des textes entiers, des pages entières de Mauriac. Il appréciait beaucoup, beaucoup le style de l'écriture, il écrivait lui-même très bien. Il appréciait beaucoup le style.
On va peut-être écouter la musique du bal dans Judex, faire une petite pause musicale. Là, autour de la table, c'est un banni. On parlait justement du rapport qu'avait Frangus à l'écriture, puisqu'il a quand même adapté Hervé Bazin, donc La tête contre les murs, mais Mauriac avec Thérèse Desquérou, Cocteau avec Thomas l'imposteur, et Conrad, qui est moins connu, Joseph Conrad avec La nuit d'ombre, et Zola avec La faute de l'abbé Mouret, dont on parlera peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Oui, alors, vous disiez là tout à l'heure quelque chose qui était très intéressant pour la petite pause.
C'est que la façon dont Frangus parlait de Thérèse, par exemple Thérèse Desquérou, il prend le bouquin, mais comme on fait un documentaire, c'est-à-dire il s'attaque à l'écriture elle-même et il est le plus fidèle possible et il essaie de ressortir les phrases qui lui suggèrent le plus de choses et il se veut, et il l'est d'ailleurs, d'une fidélité, dans un certain sens, totale. Bon, à la fois c'est comme ce que vous disiez Gérard, une fidélité qui engendre aussi une transgression énorme, puisqu'il met forcément ce qu'il aime lui et il visualise beaucoup de choses, mais qui sont dans l'écriture. Et il est très fier, il dit « je n'invente rien ». Et avec Thomas, il a fait pareil. Et c'est ça qui le passionnait, c'était justement dans l'écriture de Mauriac, dans l'écriture de Thérèse, de ressortir cette espèce de violence et ce personnage tellement profane et
rebelle
et athée à la limite, presque scandaleux qu'était Thérèse.
Oui, tout à fait. Mais c'est drôle parce que quand je pense à Thomas l'imposteur, À l'écriture de Cocteau et au film qu'a fait Cocteau, je trouve que Thomas l'imposteur de Franju est une visualisation de l'écriture de Cocteau. Ça, c'est quand même très étonnant.
Ce qu'il y a de magnifique dans le livre de Cocteau, c'est qu'il s'agit d'un tout jeune homme,
oui.
Thomas, qui, ça se passe pendant la guerre de 14, et il prend la guerre comme un jeu, et il invente la guerre, et tout devient spectacle.
Absolument, son théâtre, c'est son spectacle.
Et donc, c'est vraiment une œuvre cinématographique par excellence, et puis qui peut correspondre formidablement à Franju, qui avait tellement de mal à justement avoir la réalité, où il avait du mal à sortir dans la rue, à marcher, à retrouver son chemin, il se perdait tout le temps, il avait peur du réel, mais par contre, dès que les choses pouvaient se passer à travers une image, ou s'il pouvait créer quelque chose, ça prenait plus de réalité pour lui, et je crois que ce sujet lui convenait formidablement, et effectivement, il y a tout un univers tout à fait théâtral, très très fort et superbe.
Mais quand il a fait Thomas, il m'a dit, bon, ça y est, je vais faire Thomas, ça démarre, c'est bon, tout content. Et puis je lui ai dit, ah bon, ça va être un très vieux projet qu'il avait. Et il me dit, oui, c'est formidable. Cocteau, dit de l'évêque, il avait l'air d'un grand fuchsia. C'est-à-dire qu'il avait retenu cette image. C'était comme ça qu'il fonctionnait. C'est-à-dire qu'il... C'était une belle métaphore, mais en même temps, pour lui, d'ailleurs, l'évêque n'a pas l'air d'un grand fuchsia dans son film, mais c'était ça, il avait une image qui l'avait frappé, et autour de ça, il peut développer, mais ça reste très fidèle à l'œuvre.
Tout à fait.
À l'esprit de l'œuvre.
Il avait un autre projet, Edith Scope, je crois, à propos de Kafka, vous pourriez nous en parler un petit peu?
Oui, j'en parlerai un petit peu, mais pas beaucoup, c'est un... Ça doit être assez vieux, c'est un petit texte de Kafka, qui s'appelle La Galerie, toute petite nouvelle, qui parle d'une écuyère et de l'amour du monsieur loyal pour l'écuyère. Et c'est presque deux immenses phrases comme ça de Kafka qui racontent ce personnage. Et Franju a fait un découpage magnifique, il suffit de le tourner, quoi. Et c'est très, 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 très beau. Et c'est publié, enfin ça a été, heureusement c'est pas perdu, hein, parce que je crois que dans le livre de
Madame Prumain,
oui, il est publié.